Un enfant porteur de handicap, un frère ou une sœur victime d'un accident invalidant, un parent en perte d'autonomie en raison de son âge ou de sa maladie. Selon plusieurs études récentes, près de 3 Français sur 10 assistent un proche régulièrement dans ses actes de la vie quotidienne. Cela nous fait 11 millions d'aidants en France, probablement 130 000 personnes concernées chez nous, en Haute-Savoie, si l'on extrapole ces chiffres. Une main tendue qui impacte la vie personnelle, la vie sociale, parfois professionnelle de toutes ces personnes aidantes. Pour les accompagner, l'UDAF, l'Union des associations familiales de Haute-Savoie, lance ce début 2023 un dispositif d'aide aux aidants. Nom de code, ressourcez-vous.
Émission spéciale Vanessa Sanson.
Et pour en parler en studio, Frédéric Loffron et Ingrid Lavergne, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
L'UDAF de Haute-Savoie couvre notre département avec des permanences dans le bassin annécien sur les secteurs de Thonon et Bonneville. 45 personnes qui balayent notre territoire, engagées pour représenter les familles de Haute-Savoie, accompagner et animer un réseau de 115 associations qui œuvrent au service des familles. Vous en êtes le directeur général de l'UDAF de Haute-Savoie, Frédéric Loffron. Ingrid Lavergne, vous avez été recrutée pour coordonner ce dispositif ressources. Et vous, après avoir travaillé dans une association justement qui rassemble des proches et des aidants, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on sait des aidants familiaux aujourd'hui chez nous? Leur âge, leur sexe, leur situation professionnelle, personnelle?
Alors, bien sûr, les aidants, ça recouvre une diversité de situations. Il est communément admis que sur les 11 millions d'aidants, la moitié aide des personnes en situation de handicap ou frappées par des maladies. Et puis l'autre moitié, des personnes âgées.
Un parent âgé.
Exactement, c'est cette répartition. Mais tous n'ont pas forcément le sentiment d'être aidants. Et c'est le cas en particulier des aidants mineurs. On en parle relativement peu souvent.
Mais j'ai pas trop vu d'ailleurs si dans ces 11 millions, ils étaient vraiment comptabilisés, les mineurs.
Je dirais qu'a priori oui, a priori oui. Mais force est de constater que tout récemment, dans un article du Monde du 10 janvier dernier, on rappelait que un élève par classe est un aidant. On est sur une échelle absolument démentielle, ouais, et qui est totalement sous-estimée.
D'un parent handicapé ou d'un parent allophone.
Exactement, exactement. Et il faut savoir que, bon, puisqu'on parle un peu de la sociologie des profils des personnes aidantes, 85% vivent avec la personne aidée. 58% des aidants sont des aidantes, sont des femmes, et 51% sont toujours actifs. Et en général, on en reparlera peut-être tout à l'heure, ça a un impact évidemment sur leurs ressources, parce qu'en général aussi, ce sont des personnes à temps partiel.
Ouais, qui réduisent leur temps de travail pour pouvoir aider justement. Quand on dit que l'aidant assiste régulièrement, je cite, pour des actes de la vie quotidienne, est-ce que ça veut dire que tout proche ou membre de la famille d'une personne non autonome n'est pas nécessairement aidant au sens légal du terme?
Alors, la question se pose, est-ce qu'il y a vraiment une définition légale?
Ouais.
J'ai une définition européenne qui est assez consensuelle, qui reprend un certain nombre de critères. Premier critère, c'est que c'est une personne qui est non professionnelle. Deuxième critère, c'est qu'elle vient en aide effectivement de manière régulière, de manière récurrente. Elle vient en aide à qui? À une personne qui est dépendante. Donc ça, c'est encore un critère d'évaluation. Et puis qu'elle est dépendante dans son entourage. C'est le côté familial. Donc, additionner l'ensemble de ces critères permet d'avoir une visualisation du profil de l'aidant selon cette définition qui est assez unanimement partagée. Et tout ça pourquoi? Pour assurer un certain nombre de prestations dans la vie quotidienne, à savoir du soin, de l'accompagnement à l'éducation, à la vie sociale, à des démarches administratives, à une vigilance permanente, parfois jour et nuit, apporter un soutien moral, et puis gérer des activités domestiques, des prestations diverses. Donc c'est quelqu'un qui est au cœur de la vie familiale auprès de la personne aidée.
Josette Beauchaton-Dutruel est en studio avec nous, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous apporter votre témoignage. Vous aidez votre fille aînée, aujourd'hui jeune adulte, elle est atteinte de troubles psychiques et c'est évidemment un long parcours à ses côtés depuis son jeune âge. Dans ce parcours d'accompagnement de votre enfant, vous avez justement un jour réduit vos heures de travail pour être plus présente aux côtés de votre fille. Comment vous avez vécu, pris cette décision?
Alors sur le moment, c'est compliqué parce que c'était un handicap psychique et c'est quelque chose qui se repère très tardivement dans la vie. Donc, c'est quelque chose que j'ai... Il y avait des besoins particuliers dans son jeune âge, mais je n'ai pas du tout repéré que c'était un problème de maladie. Donc, c'était plus simple pour moi. Déjà, c'était un choix de vie de travailler moins, parce que ma fille avait, je sentais bien qu'elle avait plus de besoins que, qui étaient compatibles avec un travail à temps plein. Mais je n'ai pas eu du tout l'impression d'être une aidante,
ouais.
ni que ça m'ait été imposé. Finalement, avec le recul, je me dis, ben oui, est-ce que c'était vraiment un choix ? Voilà, donc c'est très compliqué de répondre à cette question, parce que j'étais une mère de famille un peu empêtrée dans une situation qu'elle maîtrisait pas du tout. C'était un choix de vie, parce ouais. qu'autrement, c'était pas possible. Voilà.
Quelles ont été les autres conséquences de cette situation d'aidant familial dont vous nous dites que vous n'avez pas eu conscience tout de suite sur votre vie professionnelle et sociale ?
Ah bah, sur la vie professionnelle, Monsieur Logeron l'a rappelé, c'est qu'on travaille moins, donc on gagne moins. Mmh. Ça m'a été possible parce que j'étais en couple. Et j'ai une pensée émue pour les familles monoparentales, pour qui c'est une extrême difficulté. Ouais. Vie sociale, mais j'ai eu la chance, par contre, d'avoir un instinct de survie assez vif. Et pour ma part, j'ai tout de suite senti que j'asphyxiais et qu'il fallait malgré tout que je fasse du sport, que je rencontre des gens. Et j'ai eu la chance de toujours rencontrer des gens qui n'ont pas été
jugeants.
Ouais. Jamais. Non, jamais. Voilà. Mais je suis chanceuse parce que je sais que c'est pas le cas de tous les aidants.
Quelles sont les principales difficultés rapportées par les aidants familiaux, Ingrid Lavergne, Frédéric Loffron ?
Elles sont de plusieurs natures et en général, elles sont cumulatives. Tout ça, ça représente des charges émotionnelles, des charges physiques, des charges financières. Et on peut les illustrer à travers quelques exemples. En termes de charges physiques, évidemment, le fait de se déplacer, de réaliser un certain nombre de démarches, de même manipuler, de s'occuper de l'hygiène, du soin de la personne aidée, c'est en soi évidemment quelque chose qui nécessite évidemment des capacités physiques que tout le monde n'a pas forcément. Réaliser aussi le fait qu'on est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, parfois, ça a un impact physiquement sur son sommeil. On sait très bien que le sommeil conditionne beaucoup sur la santé physique et mentale. En termes de charge mentale, justement, c'est important parce qu'on a besoin de temps pour décompresser. C'est vrai que ce que vous évoquiez à l'instant, à travers le sport, à travers des sorties, à travers le réseau amical, c'est l'exutoire, c'est la bulle d'air qui est absolument nécessaire, mais tout le monde n'a pas, d'une part, conscience que c'est nécessaire et qui peuvent se le permettre. Comment penser qu'à un moment donné, on peut s'octroyer ces moments à soi, alors qu'on est dédié à sa fille, à son frère, à son père, non-stop. Et puis pour finir, en termes de charges financières, oui, on dit effectivement, beaucoup d'aidants, la plupart des aidants d'ailleurs, statistiquement, sont à temps partiel, ont dû sacrifier une partie de leur carrière professionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui pèse évidemment au quotidien, parce qu'on engage évidemment beaucoup de frais. Et puis, il faut savoir que globalement, l'aidance, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. 68% des aidants aujourd'hui sont aidants depuis plus de 10 ans. Donc c'est quelque chose aussi qui laisse des traces physiques, qui laisse des traces mentales, psychiques, qu'on a tout intérêt à travailler, à prévenir en termes de conséquences. En tout cas, c'est la philosophie de Ressourcez-vous.
Premier volet de ce plan d'action que j'ai saucissonné un peu pour qu'on l'explique. Écouter et donner de l'information sur les droits et les services auxquels peuvent prétendre les aidants. Vous allez ouvrir une ligne téléphonique. C'est vous qui allez écouter au bout du fil, Ingrid Lavergne ?
Tout à fait. C'est moi qui vais répondre à ces aidants familiaux qui nous contactent. Donc, il y a plusieurs formes et possibilités de nous contacter. Il y a tout d'abord notre numéro, le 0820 240 700. Et on a également une adresse mail, aidant@udaf74.fr, aidant s'écrivant au singulier.
Au singulier. Okay.
Il ne faut pas que les gens hésitent à laisser des messages si jamais je ne peux pas répondre. Ils seront recontactés très rapidement. On voulait aussi ajouter que on s'est aperçu grâce à des lectures et des recherches que l'importance d'ouvrir un dispositif comme le nôtre était vraiment pointée du doigt par les aidants, puisque grâce à une enquête d'une mutuelle, on s'est aperçu que les aidants familiaux, pour un meilleur soutien, ils avaient besoin qu'on ouvre une assistance téléphonique. un centre d'accueil d'information, des rencontres entre les aidants et également une plateforme d'information d'échange. Donc là, c'est ce que nous, on propose avec Ressources et vous. C'est vrai que ça nous a vraiment conforté sur l'importance de la mise en place d'un tel dispositif.
Premier volet, donc, je le disais, donner de l'information sur les droits et les services auxquels ils peuvent prétendre. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de partenaires qui peuvent aider les aidants quant à leurs droits et leurs aides?
Oui, bien sûr. Alors, on a par exemple la CAF, la Caisse des allocations familiales, qui propose une allocation journalière du proche aidant. Donc en fait, tous les aidants familiaux qui doivent réduire leur temps de travail ou arrêter une activité professionnelle peuvent avoir ce droit-là. On a également la CPAM qui propose une allocation journalière pour accompagner un proche qui est en fin de vie. Et puis on a des caisses de retraite aussi qui ont un volet de soutien financier, notamment pour avoir accès au répit, se faire soutenir psychologiquement ou encore se faire former pour être mieux armé au quotidien face à ces difficultés que ça représente d'être aidant.
Des aides souvent ignorées, vous, Josette Beauchaton-Dutruel, est-ce que vous avez rapidement eu la conscience que vous aviez finalement ce statut d'aidante familiale et que vous pouviez être aidée ou faire valoir des droits?
Oh, ça fait peut-être 5-6 ans que j'ai conscience d'avoir été aidante familiale.
Alors que vous élevez votre fille jeune adulte depuis sa naissance, par définition.
Oui, ben, je l'aidais beaucoup plus. Je l'aidais beaucoup plus quand elle était plus jeune que je ne l'aide maintenant. Mm-hmm. Mais non, pas du tout. J'ai pas du tout eu conscience d'être aidante familiale. J'étais une mère de famille. Un peu débordée par les événements, mais bon. Et je n'avais pas du tout conscience qu'il y avait des structures en place auxquelles j'aurais pu appeler. Je ne sais pas, non, ça ne m'est pas jamais venu à l'idée.
La plupart de ce qu'on entend des aidants, c'est qu'ils se voient évidemment d'abord comme mère, comme fils, comme frère.
Comme proche.
En fait, ce sont des super mères, ce sont des super filles, ce sont des super frères, parce qu'ils vont bien, bien au-delà. Mais ils n'en ont pas conscience, tout simplement.
Ce qui ne m'a pas aidée, c'est que c'est ma fille aînée qui a eu des soucis de santé. Alors peut-être que si ça avait été ma deuxième, j'aurais eu quelque chose dans ma tête qui me dit « c'était pas pareil avant ». Tandis que là, c'était une découverte, donc c'était beaucoup plus compliqué de m'en rendre compte.
Émission spéciale avec l'UDAF de Haute-Savoie.
Ressourcez-vous, c'est le nom du dispositif lancé par l'UDAF en ce début d'année 2023, un plan d'action pilote en France pour soutenir les aidants familiaux. C'est 130 000 hauts savoyards qui accompagnent au quotidien un proche invalidé par le handicap, la maladie ou l'âge. Dans l'accompagnement de ces aidants familiaux, les associations ont toujours été très actives. Des associations qui accompagnent les aidants avec de plus en plus de propositions, des groupes de parole, des solutions de répit, on l'a évoqué, des groupes d'entraide mutuelle. Petit exemple avec l'AFT de Haute-Savoie, l'association des familles de traumatisés crâniens et de cérébraux lésés. Écoutez ce sujet de Victorien Duchet.
Nous sommes en 1993. Une petite fille de 11 ans se retrouve en réanimation suite à un accident de la voie publique. La vie de toute une famille bascule. Son papa, Alain Germain, découvre les conséquences que peuvent avoir un traumatisme crânien.
Un cerveau est unique, donc un cerveau cérébro-lésé est forcément aussi unique. Après, ça dépend de l'origine, que ce soit un AVC, un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme crânien ou une tumeur au cerveau. Ça engendre effectivement des difficultés, des séquelles cérébrales du style orientation dans l'espace, mémoire, troubles de la personnalité. Il peut y avoir aussi également des troubles du comportement, de la désinhibition. Et les séquelles peuvent être très variées selon les degrés de l'atteinte.
Alain Germain cofonde alors l'antenne aux Savoyardes de l'AFTC. Ce sera la 20e de l'association à naître sur 50 aujourd'hui.
Alors l'association a été créée pour justement accompagner et échanger sur l'expérience du traumatisme crânien et de la cérébrolésion auprès des familles, de les diriger vers les structures ou les réseaux adaptés, d'impulser à la création de réseaux professionnels, ce qu'on a fait en 2003 avec la création de Synapse, qui est un centre ressources avec maintenant 4 personnes et 33 salariés, et aussi d'alerter les pouvoirs politiques sur les carences et les manques de ce fléau de l'handicap invisible, qui est la cause numéro 1 en France du handicap qui est acquis, c'est-à-dire qui n'est pas de naissance.
Une association qui tente de s'adapter en permanence aux besoins des familles, avec depuis un an et demi des cafés des aidants animés par des bénévoles formés.
La confiance d'emblée s'installe. Elles n'ont pas affaire à des professionnels, mais elles ont affaire à des gens qui ont le même parcours de vie qu'eux.
La FTC accompagne en ce moment 150 familles touchées par la cérébro-lésion.
Et voilà une autre ambition de Ressourcez-vous, donc le dispositif lancé par l'UDAF, mettre en relation les aidants avec une association comme la FTC et comme toutes les autres. En général, il existe une association par type de handicap, de maladie, de questions. Comment vous allez recenser justement toutes les propositions existantes en Haute-Savoie ?
Alors, le recensement se fait depuis plusieurs semaines maintenant. Ça a été un travail préparatoire voilà, qui s'est fait déjà un peu en amont. Donc d'abord, on s'est basé sur les partenaires qu'on connaît, qui sont affiliés à l'UDAF et qui, pour beaucoup, œuvrent dans le champ du handicap. Grâce à notre réseau personnel et professionnel passé, on avait également information de ce qui existait en termes d'aide pour les aidants familiaux. Et puis, Internet est quand même une source d'information assez importante. Et on a pris quelques contacts téléphoniques avec des partenaires du Chablais pour en savoir plus sur ce qu'ils proposaient et pouvoir de fait transmettre l'information au mieux aux aidants qui nous appellent. Puis je vais rajouter enfin que c'est un travail qui va se continuer et se poursuivre tout au long de la vie du dispositif. Hein. On va le mettre à jour régulièrement parce qu'il va y avoir de nouveaux services. Et de...
On le voit là avec la FTC, des cafés des paroles qui se créent, d'autres choses aussi.
Cette préparation, elle a révélé aussi une forme d'injustice. On a fait cet inventaire, on a une cartographie, on a un puzzle effectivement du département avec un certain nombre de structures qui ont pris de belles initiatives et qu'on va justement chercher à valoriser et qu'on mettra en rapport avec des aidants qui sont dans le besoin. Mais force est de constater que en zone rurale, dans le Chablais en particulier, on est quand même très très loin de ce qu'on est en capacité d'avoir quand on est dans le bassin annécien. Et donc notre vocation, c'est pas simplement, alors évidemment dans un premier temps c'est cette mise en relation qui va être très concrète et très importante pour les aidants et pour les soutenir, mais on a aussi vocation dans un second temps à alerter les pouvoirs publics pour leur tirer l'oreille en leur disant il y a quand même une politique publique à mettre en place aujourd'hui, territoriale, pour que ces services ils soient plus proches des aidants, plus proches de leur domicile, qu'ils n'aient pas à faire 20 ou 30 ou 40 kilomètres pour accéder à un dispositif de répit ou un groupe de parole, que sais-je. Et d'ailleurs, dans cette perspective-là, je rencontre prochainement le ministre des Solidarités sur le dispositif Ressourcez-vous, et donc je ne manquerai pas de l'interpeller.
Je vois que pas mal d'associations en Haute-Savoie font l'effort, par exemple à la FTC, les cafés des aidants, il y en a dans différents bassins de vie, à l'UNAFAM aussi. Je vous voyais acquiescer, Josette Bouchaton du Truel.
Oui, alors pour les aidants, c'est vrai, mais c'est vrai aussi pour les personnes qui sont à aider, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même accès aux soins.
Ouais.
Et c'est un problème majeur parce que je pense que les aidants iraient beaucoup mieux si les proches étaient pris en charge dans la meilleure façon possible.
Absolument.
Vous avez d'abord été réticente, je crois, à participer au groupe de parole de l'UNAFAM, l'Union nationale des familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques. Et maintenant, vous êtes engagée dans l'association. Qu'est-ce qui a fait déclic pour vous ?
Alors, parce que je savais pas ce que c'était qu'un groupe de parole, j'imagine. Parce que je savais pas ce que c'était que de faire partie d'une association autre que sportive. Une association d'aidants, quand je fais des accueils, les gens me disent la même chose. Donc, je peux le redire. Mais moi, j'ai pas besoin d'aller parler de moi à des gens qui vivent la même chose que moi. Ça suffit. Et j'ai découvert, quand j'ai eu accès à l'UNAFAM, de façon tout à fait, c'était presque anecdotique. Quoi. Je suis surprise qu'à aucun moment du parcours de ma fille, quelqu'un ait pensé à me parler de l'UNAFAM. Mais peut-être que j'ai mal entendu, c'est possible aussi. C'est un tel séisme quand on a des choses comme ça qui nous arrivent. Ouais. Mais j'ai découvert surtout un endroit où j'ai eu une mine d'informations. Même des choses que je ne cherchais pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir ce qui nous manque quand on ne sait pas que ça existe. Et donc, j'ai vraiment découvert des choses magnifiques. Pour moi, ça a été des formations pour apprendre à comment être aidant au mieux auprès de ma fille. Je le dis, c'est pro-famille et c'est super. Effectivement, c'est Annecy. Je viens depuis le Chablais. On faisait 1h30 de route à l'aller, 1h30 de route au retour. Et puis, j'ai trouvé des rencontres fabuleuses. J'ai rencontré des gens merveilleux. Voilà. Donc après, et j'ai découvert que j'étais aidante. et que j'avais une expérience de vie qui pouvait être utile à d'autres.
Vous nous le disiez, les propositions paradoxalement de toutes ces associations ne sont pas si bien relayées que ça par les professionnels de santé. Est-ce que le fait que l'UDAF soit un relais d'information encore pourra pour vous aider à mieux faire connaître l'UNAFAM et les autres associations?
C'est tout le mal que je leur souhaite. Mais ne serait-ce que dans tous les hôpitaux, il y a une maison des usagers où se retrouvent toutes les associations qui œuvrent auprès des usagers et de leurs proches. Qui est-ce qui connaît ? Les soignants eux-mêmes ont du mal à tous connaître ça. Donc voilà.
Il y a du boulot.
Il y a du boulot.
Émission spéciale. Soutenir les aidants familiaux avec l'UDAF de Haute-Savoie.
Dernière partie de notre conversation avec Frédéric Lofron et Ingrid Lavergne. Vous nous présentez le nouveau dispositif de soutien aux aidants familiaux lancé par l'Union départementale des associations familiales de Haute-Savoie. Une aidante familiale, Josette Beauchaton-Dutruel, nous apporte son témoignage en studio. Nous avons évoqué ensemble les deux premiers axes de ce dispositif baptisé « Ressources et vous », l'écoute, l'information et la mise en lien avec des associations. Dernier volet de cette nouvelle offre, l'orientation vers des psychologues dans chaque bassin de vie et la prise en charge financière de 5 séances de psy. Pourquoi ça vous tenait à cœur de soutenir les aidants sur ce volet ?
Tout simplement parce que 60% des aidants sont exposés à un risque de surmortalité dans les 3 ans à partir du déclenchement de la maladie de la personne aidée. Et il faut savoir qu'un aidant sur 3 meurt avant la personne aidée. Tout ça, ça a des répercussions, tout ça, ça a des conséquences sur le physique et sur le psychique de la personne qui aide. Et ça, c'est quelque chose, en termes de prévention, qui comptait à nos yeux de pouvoir traiter, analyser, diagnostiquer, et puis orienter vers des professionnels du soin. Et c'est vrai qu'il existe des dispositifs de café des aidants, de groupes de parole, qui permettent, entre pairs, de bien se comprendre et de poser des mots. Et pour d'autres personnes, tout le monde n'est pas forcément prêt au cours de son parcours, ou en tout cas à ce moment-là, d'accéder à ces groupes de parole, ou parce qu'ils sont très loin géographiquement, comme vous le disiez, Josette. Nous, on va essayer de mailler le territoire avec un réseau de psychologues. On a commencé à le faire, et l'idée, c'est de permettre aussi cette accessibilité à travers, on va dire, une aide financière, parce que on voulait pas que cette contrainte financière du coût de la consultation soit un obstacle.
Un frein à la consultation.
Et concrètement, ça représente 60 euros pris en charge par l'UDAF, par notre dispositif Ressourcez-vous, pour une consultation en tout de 70 euros. Ça veut dire qu'il y a un reste à charge, concrètement, de 10 euros pour la personne aidante qui viendra en consultation. Tout ça dans une limite de 5 consultations, parce que malheureusement, on doit tenir nos budgets. On aurait bien aimé faire plus, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est à disposition. Et il ne faudra pas hésiter à nous appeler, à nous solliciter pour accéder à ce service.
On va passer un coup de fil, si vous le voulez bien, à Philippe Berger, qui est psychologue. Il accompagne les aidants au sein de groupes de parole à l'UNAFAM, notamment, et il reçoit aussi des aidants en consultation. Bonjour Philippe Berger.
Bonjour.
À quel moment, finalement, il peut être bon de se dire, en plus de, par exemple, des groupes de paroles auxquels je participe, je peux m'autoriser et ça me ferait du bien de m'occuper de moi et d'aller voir en individuel un thérapeute comme vous?
Il n'y a pas de cas spécifique où c'est nécessaire. Moi, je le conseille à tout le monde parce que il va être vraiment question de travailler sur cette capacité d'accepter une différence là qui vient d'apparaître et qui, dans bien des cas, va s'inscrire dans la durée. Il y a besoin de venir chercher de l'information sur la maladie, de mieux la comprendre, en fait, pour être capable de travailler son positionnement face à l'autre. Donc moi, je le conseille à tout le monde, et le plus tôt possible, parce que il est question d'essayer de préserver la relation entre la personne et son proche malade, quoi, vous voyez. Ce qui n'est pas toujours facile.
Cette relation, on peut la préserver en trouvant une juste place, et j'imagine que ça fait partie des questions aussi qu'on peut se poser chez vous et avec vous. Quelle est ma place? Quelle doit être ma place? Comment bien accompagner?
Pour bien accompagner, comme je l'ai dit, il faut déjà bien comprendre la maladie pour savoir ce qui en ressort, en fait, et ne pas prendre certains comportements, certaines modifications dans le caractère de la personne comme des choses intentionnelles, mais vraiment de les comprendre comme des des éléments symptomatiques de la maladie, quoi, vous voyez. Et puis donc ça va impliquer d'accepter d'aller au rythme de l'autre, hein, et ça implique souvent de ralentir dans son propre fonctionnement.
Comment on fait pour pas aller trop loin dans les danses?
Une des réflexions qui va falloir se poser sur la question de l'accompagnement, justement, c'est comment je vais pouvoir être aidant sans être intrusif. Et comment je vais pouvoir être soutenant sans faire à la place de l'autre quand c'est possible, quoi. Voilà, ça veut dire finalement trouver la bonne distance dans la relation avec l'autre. Toute la difficulté, ça va être de pas se centrer uniquement sur son proche au détriment de sa propre vie à soi et de pas désinvestir les choses qui étaient des ressources, hein, pour soi. Sinon, c'est au risque d'un épuisement, donc éventuellement de difficultés sociales et professionnelles pour soi-même, et puis surtout au risque de plus pouvoir aider l'autre finalement, quoi. Vous voyez, bien souvent, on s'inscrit dans le cadre de maladies chroniques qui vont nécessiter du soin au long cours, et ça fait partie aussi des choses qui vont être à accepter dans un premier temps. Et puis après, il faut savoir autour de soi aller chercher les bonnes ressources, ça c'est sûr.
Merci beaucoup, Philippe Berger.
Et je vous en prie, merci à vous d'être venu vers moi et puis je vous souhaite une bonne journée.
Et je me retourne en studio vers Josette Beauchaton Dutruel. Je rappelle que vous êtes aidante pour votre fille atteinte de troubles psychiques, que vous êtes engagée en association aujourd'hui. Est-ce qu'on parle facilement entre aidants d'aide psychologique pour soi-même, ou est-ce que c'est un peu un tabou?
Pour ma part, c'est pas un tabou du tout, parce que c'est par là que j'ai commencé. Quand j'ai commencé à voir qu'il y avait quelque chose qui allait pas, je me suis mise en cause tout de suite. J'ai dit non, mais là, ça va plus, je peux plus continuer comme ça. Donc pour moi, c'est pas un tabou. Je suis allée consulter. Et c'était extraordinaire, effectivement, pour pouvoir comprendre la situation, pour pouvoir être, Monsieur Berger le dit très bien, être à sa juste place auprès de son proche, ça va de soi, auprès des frères et sœurs, parce qu'ils sont là. Et puis, il ne faut pas oublier son conjoint non plus. C'est important, parce qu'il y a beaucoup de familles qui explosent quand il y a un trouble psychique qui rentre. Parce qu'on... Parce que c'est extrêmement compliqué à vivre. Donc non, c'est pas tabou du tout. Et quand j'ai la possibilité de faire des accueils et que je remarque qu'il y a quand même un grand poids, je ne manque pas de dire que moi je suis passée par cette case-là pour pouvoir aller mieux. Bien sûr, c'était indispensable.
On a beaucoup parlé au cours de cette émission de toutes les difficultés des aidants. En revanche, de l'extérieur, quand on connaît de près ou de loin quelqu'un qui est dans cette situation, on peut pas manquer d'être en admiration devant cette ténacité, l'adaptabilité, la résilience et l'amour dont tous ces aidants familiaux font preuve pour aider un proche. Est-ce que, pour finir sur une note un peu plus positive, vous pouvez nous partager ce que l'aidance vous aura permis de découvrir ou de développer dans votre parcours personnel?
Alors, de découvrir que l'être humain est quelque chose de merveilleux. Et ça m'a permis de, comme tout le monde, de faire la part des choses entre l'essentiel et puis le futile, et puis de développer, enfin, de comprendre ce que c'est que l'humanité, quoi. Juste le mot humanité.
Belle réponse qui rejoindra bien des gens, je pense, dans bien des situations différentes. Frédéric Lofron, Ingrid Laverne de l'UDAF, on a parcouru un petit peu les différents volets de ce dispositif. Ressourcez-vous, écoute, informations sur les droits, contact avec les associations, mises en réseau avec des psychologues si besoin. Quelles sont les ambitions pour cette première année de ce dispositif pilote, on le rappelle, en France, hein.
C'est vrai. Alors, l'ambition première, déjà, c'est de faire connaître. Ressourcez-vous. C'est une ambition très modeste.
Pour qu'on appelle Ingrid.
et je vous remercie en tout cas d'y contribuer largement et concrètement aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on part d'une feuille blanche. Donc on a besoin, évidemment, pour aider un maximum d'aidants, que ces aidants aient connaissance de notre existence. On n'a pas d'objectif chiffré, très honnêtement. Enfin, c'est pas un discours que je peux tenir auprès de mes financeurs, mais très honnêtement, si. On s'affranchit de la politique du chiffre. Nous, ce qu'on veut, c'est effectivement consacrer le temps qu'il faudra à écouter, à entendre, à comprendre, à informer, à orienter. On souhaite tout simplement être à la hauteur de la confiance que les aidants nous accorderont en nous confiant leur intimité, parce que quelque part, on va parler de leur quotidien, on va parler de leurs difficultés, on va entendre ce qui se passe dans le cercle familial et au domicile. Ben, voilà, il faut être à la hauteur. Et donc c'est quelque chose qu'on a, nous, à cœur en tout cas, d'atteindre comme objectif. C'est un objectif qualitatif, parce que chacun mérite qu'on l'écoute dans sa singularité.
Ingrid, elle est formée pour répondre à ces appels, elle a l'expérience. Est-ce que vous pouvez nous redonner le numéro auquel tous les aidants peuvent vous appeler ?
Oui, bien sûr. Donc ils n'hésitent surtout pas à nous contacter au 0820 240 700 et également par mail à aidant@udav74.fr, aidant étant au singulier.
Dispositif qui n'a pas de date de fin, hein. C'est pas un test sur une période.
Non, c'est une vraie inscription dans la durée, c'est un dispositif pérenne. L'UDAF s'y engage et on tiendra nos engagements.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup Josette pour votre témoignage. Merci Frédéric Lofron et Ingrid Lavergne. Belle vie à ressourcez-vous.